C'est toujours le mag sur Maximum jusque midi. Comme promis, on entame notre séquence hebdomadaire intitulée « C'est une bonne nouvelle ». C'est déjà ça. Christian Kino nous présente chaque semaine de bonnes nouvelles au sein des PME de la région, des entreprises qui fonctionnent bien. Christian, je te laisse nous présenter tes invités d'aujourd'hui.
Élise, un grand merci. Je vous retrouve sur Maximum FM. Je suis très heureux, comme tous les dimanches. On a passé le cap de 10h30. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. J'ai des belles histoires à vous raconter, une diversité, un dynamisme. Enfin bref, voilà, c'est des bons messages. Et bien aujourd'hui, je suis presque seul parce que mon ami Guy Van Allerguet est coincé sur le Trends Tendance, donc je serai seul avec vous ce dimanche matin. Et pas vraiment, parce que j'ai la chance d'accueillir une dame très dynamique avec nous, Madame Bernadette Vroman. Bonjour Madame.
Bonjour.
Alors on est très heureux de vous accueillir parce que d'abord, un, vous n'êtes pas de Liège, mais d'un peu plus loin, la région de Charleroi. On a fait déjà des kilomètres ce matin pour venir.
Effectivement, on est situé entre Charleroi et Nivelles.
Bien, vous êtes sur une commune qui est sur...
Le village s'appelle Liberchy et on est sur l'entité de Pont-à-Sel.
Bon, c'est un petit village de moins de 1000 habitants.
Voilà, un petit village rural dans toute sa splendeur.
Alors, on va parler de quoi ? Ben, on va parler de fraises et pas de notre fraise. Hein, on va parler de la fraise proprement dite. J'ai justement le sac qui est devant moi. Ferme des Grands Prés, fraises et asperges. Alors ça, c'est une belle histoire. On va goûter. Je vous dis tout de suite, on va goûter. Et Fred, qui est en technique de l'autre côté, va goûter également. On va un peu sentir cette odeur. Je vais essayer de vous la faire partager en radio. Dieu sait, ce ne sera pas simple. Je vous donnerai quand même mon avis. Alors, les fraises, pourquoi ?
Ah, les fraises, ça fait 16 ans maintenant qu'on en cultive. Pourquoi c'est venu petit à petit. Au départ, l'exploitation familiale était une ferme traditionnelle. Et puis, il y a une petite vingtaine d'années, on a décidé de se diversifier. Et on a fait différents essais, certains plus ou moins fructueux que d'autres. Et voilà, les fraises nous semblaient un choix intéressant dans notre cas, dans le sens où on a une situation géographique quand même intéressante. On est à 500 mètres de l'autoroute A54, donc on a une facilité d'accès qui est vraiment intéressante pour nos clients.
Dans l'historique de la ferme des Grands Prés, 2002, on met en place la fraise, oui. On attend 5 ans et on sort l'asperge.
Voilà, effectivement.
Alors ça c'est...
Bélin,
assez radical.
C'était un petit peu une suite logique, oui. Parce que déjà la fraise et l'asperge sont ce qu'on appelle deux produits d'appel. Ce sont des fruits, des légumes pour lesquels le consommateur est encore prêt à se déplacer parce qu'en tant que producteur, on peut y mettre une qualité tout à fait différente de ce qu'il trouverait en grande surface. Et d'autre part, ils se cultivent, ils se récoltent au même moment. Ce sont les premiers fruits, les premiers légumes de l'année.
Est-ce que la mentalité change ? Est-ce qu'on revient plus souvent vers les fermes ? On a visité une autre, on en donnera la parole dans une quinzaine de jours. Mais est-ce que les mentalités changent ? Est-ce qu'on prend vraiment son sac maintenant ? On vient chez vous, on dit, bon, on va peut-être pas forcément payer plus cher, mais avoir une qualité totalement différente, voire supérieure, évidemment.
Oui, on a constaté un changement de mentalité, effectivement. Maintenant, on a notre clientèle qui s'est installée déjà bien avant cette mode du local et du traditionnel. Mais c'est sûr que maintenant, depuis quelques années, on sent un engouement particulier.
Parce que c'est un marché, le marché bio, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il est clair que les grandes surfaces ont mis aussi en place quelques mètres carrés parce qu'ils ne peuvent pas éviter. C'est incontournable d'avoir un producteur. Est-ce que dans votre cas, vous pouvez placer votre produit où il y a une grande surface dans votre région qui vous permet de les présenter ?
La question ne se pose pas vraiment, en tout cas en ce qui concerne les fraises. Parce que, en fait, nous, nos fraises, c'est vraiment du circuit court et très très court dans le sens où on les récolte le matin, elles sont cueillies à pleine maturité, là où on les laisse mûrir à l'extrême, là où elles ont le plus de sucre, le plus de goût, ça leur donne évidemment cet atout-là, mais ça leur donne aussi une petite faiblesse dans le sens où, de ce fait, elles sont plus fragiles et donc elles ne survivraient pas au transport.
Quand on a une exploitation à Liberchy, évidemment c'est le bonheur parce qu'il s'est baigné par un petit ruisseau qui s'appelle Mon Plaisir, je ne me trompe pas. C'est déjà assez sympa. Mais sur le site internet de la ferme des Grands Prés, je vous invite franchement à aller faire un petit tour. Moi, j'ai trouvé des choses surprenantes. J'ai trouvé des recettes. Panna cotta aux asperges, papillote de rouget barbé aux asperges. Alors, il y avait un truc assez comique. Tagliatelle aux asperges et fraises. Voilà, un bon mélange. J'assure qu'il faut vraiment aller visiter ici. Je vous invite vraiment à faire une balade sur la ferme des Grands Prés. S'il y avait une petite question, voilà, là, vous êtes sur Liberchy. Ma petite question qu'on ne pose pas, mais je vais me poser. Les fraises de votre secteur ou les fraises de Weipion, quelles sont les différences ?
Ouais, ce sont les mêmes méthodes de culture. Maintenant, la fraise de Wépion vendue en commerce n'a pas pu être récoltée à pleine maturité comme la nôtre. Et donc, il y a la fraîcheur, la qualité.
Sachez qu'il y a un acharnement là, au niveau de la communication. Ce qui est de Wépion, ce qui ne l'est pas, ce qui est aux alentours de Wépion, ça a souvent été des débats. Je pense que ça ne rentre pas dans votre bataille, je ne pense pas.
On ne se pose pas trop la question. Voilà, chez nous, c'est la fraise de Liberchi. Les clients la connaissent, le bouche à oreille a fait son effet et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quoi.
Eh bien voilà, avant de passer sur la pause musicale, j'invite peut-être à nous donner le site internet de la ferme. Est-ce que vous travaillez sur le site internet ou sur la page Facebook?
Oui, effectivement, les deux. Je vous invite à consulter notre site, ferme-desgrandsprés.com, et on a aussi une page Facebook au même nom. Voilà, vous y trouverez des idées recettes, on explique un peu notre mode de production, comment on travaille, et voilà.
Eh bien voilà, ça c'est une excellente nouvelle, on va passer à la pause musicale, et vous pensez bien que je vais me sacrifier moi et les invités, parce que le sac qui est devant moi me tente énormément, donc je vais goûter les bonnes fraises, vous tiens courant juste après. Continuité, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, le positivisme en Wallonie, c'est sur Maximum FM que ça se passe et nulle part ailleurs. Je suis très heureux de vous retrouver, Christian Quino, et bien on vient de quitter le secteur des fraises, et je vous assure, ça a tombé par terre, extraordinaire. Et encore, on m'a dit, c'était pas les meilleurs, il faut y retourner le mois prochain, mais je vous assure que je serai certainement les faire un petit tour. Bonjour Jacques Lahaye.
Bonjour Monsieur Quino.
Alors très heureux de vous retrouver, on est passé des fraises et là on va passer à Palétophile, qui est le nom de votre entreprise. Voilà. Donc Palétophile, c'est une société qui fabrique du mobilier design à partir de planches de palettes et non un mariage de palettes, comme on peut le voir, les fauteuils de jardin et compagnie, rien à voir. Palétophile, ça décortique une palette et je crois savoir que c'est quasi 50% du boulot, c'est rien qu'à démonter les palettes et pas n'importe quelle palette, les palettes qui ont vécu, c'est juste ?
Voilà, tout à fait, je pense que c'est absolument bien résumé. D'ailleurs, tu as déjà pu me croiser dans mon garage en plein démontage. Et...
Voilà, dans l'ancienne maison de sa maman, un petit garage métallique qui fait quoi 4 mètres sur 3 peut-être.
Ouais, un peu plus long, mais un peu moins large, donc très petit quoi.
Très petit quoi, avec deux machines et, voilà. Et de l'huile de coude.
Voilà, tout à fait.
Donc Palétophile, ça démarre comment cette histoire?
Ça démarre parce que je me suis retrouvé au mauvais endroit. Je travaillais pour une firme pharmaceutique pendant 17 ans, jusqu'au jour où ils n'ont plus besoin de moi. Donc, j'étais
donc
au mauvais endroit.
Un pharmacien qui passe à faire du mobilier.
Je n'étais pas vraiment pharmacien, mais disons que j'allais promouvoir les médicaments chez les médecins. Donc,
voilà,
j'étais délégué médical. Et puis, à 52 ans, quand on se retrouve sur le carreau, bah, ce n'est pas toujours évident. Non seulement on est en recherche d'un emploi, mais aussi à tuer le temps qu'on a tout d'un coup. Et donc, j'ai commencé à bricoler avec des planches de palettes que j'avais chez moi.
Mais pour faire quoi, en fait ?
D'abord, pour tuer le temps, j'ai bardé un mur chez moi, j'ai fabriqué une petite lampe, et puis, de fil en aiguille, les connaissances, la famille me disaient « c'est génial ce que tu fais, c'est super beau, tu ne pourrais pas me le faire ». Et puis, je me suis dit il y a une demande, il y a du potentiel.
C'est une histoire familiale, parce qu'il y a Jacques Lahaye, mais il y a Benoît Lahaye.
Voilà.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors Benoît, c'est des études très sérieuses, c'est un garçon très sérieux qui a réussi ses études et qui s'est dit « je vais donner un coup de pouce à papa » parce qu'il voyait ramer sûrement avec le papier
absolument.
80 grammes en train de gratter. Alors toi, tu as division marketing.
C'est ça, donc j'ai commencé par le marketing en haute école, puis j'ai fait la passerelle ici à HEC, pas très loin du studio. Et puis je me suis dit, comme j'étais partie prenante depuis le début un peu dans le projet, je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans et voilà où on en est aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. On a dû apprendre un métier finalement tous les deux.
Oui, apprendre un métier, apprendre des outils. Et puis,
c'est ça, oui.
Et puis tu n'es pas là que pour guider, entre guillemets, papa, mais tu es là aussi pour bosser.
Oui, c'est ça. On va dire que même 90% du
mon travail, tenaille,
c'est
quoi.
Ça. C'est vraiment les mains dans le cambouis. Et voilà, on essaye de faire notre maximum pour mener ce projet le plus loin possible. Pour l'instant,
alors,
ça se passe bien.
Des idées, on en a tous, mais enfin, il faut encore les concrétiser. Mmh. Alors, quand on parle de design, c'est quand même très complexe. Moi, j'ai vu quelques réalisations sur le site, meubles de salle de bain, et portes, même des portes coulissantes assez larges. Il faut quand même bien rechercher tout ça. Il y a quand même une base quelque part, on l'a... Allez, je ne dis pas, on sort pas ça tous les matins quand même, mais ça vient de quelque part.
Oui, non, disons qu'on part avec une demande particulière d'un client qui nous pose la question, tiens, est-ce que vous pourriez faire ça. On ne dit jamais non d'emblée. On réfléchit à sa faisabilité et, parce que c'est un matériel tout à fait particulier. Donc, il faut...
Le particulier, mais il y a également des entrepreneurs qui pourraient vous contacter.
Oui, bien sûr. On fait aussi l'aménagement de plus en plus. On essaie d'arriver à l'aménagement d'indépendants, donc de salons de coiffure, dans l'Eureka, dans le bureau. Donc oui, on a été aménager des bureaux du côté de Bruxelles.
D'accord. Donc on pense que Palétofil pour avoir un développement sur deux secteurs d'activité, enfin c'est-à-dire son secteur d'activité partagé sur deux clientèles potentielles, donc le particulier et le secteur de la construction.
Oui, pourquoi pas, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a encore énormément de potentiel en tout cas.
C'est une bonne nouvelle ça. Et alors la surface d'atelier maintenant de Palétofil, c'est quoi? C'est 12 mètres carrés? On est passé à...
Voilà, maintenant on est à 140 mètres carrés.
Bravo.
Voilà, donc on a loué un atelier à Chenet, donc pas trop loin de la maison, et qui nous donne beaucoup plus d'espace, évidemment, pour stocker, pour y mettre des machines, pour stocker les planches, les meubles qu'on a créés, etc. Parce que...
Et Palétofil, s'il y avait un scoop maintenant, ce serait quoi?
On a aménagé un beau projet récemment, c'était un gîte qui se situe un peu sur les hauteurs, mais... On a mis quelques petites bandes annonces pour l'instant sur les réseaux sociaux. Mais
bien, ça c'est le rôle du marketing, on le sent tout de suite. Hein, le ton de la voix est différent. Hein.
Et aussi, on se lance dans la fabrication de cuisine aussi, qui est en cours d'élaboration. Donc, voilà.
Il y a un accès à la profession pour votre secteur?
Non, parce qu'on a la reconnaissance d'artisans. Donc nous sommes artisans, reconnus par
Ça c'est important, on en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Voilà, ouais, donc on
l'a eu. Donc on a le petit label alors?
Voilà, on a le label tout à fait, l'artisan reconnu, donc il n'y a pas d'accès à la profession, non.
D'accord.
Nous, je ne suis pas menuisier, je ne suis pas ébéniste, on ne se présente pas tel quel.
D'accord.
Donc, voilà.
Mais c'est un métier très particulier dans le sens où c'est pas de la menuiserie, c'est pas de l'ébénisterie, c'est des planches de palette, elles sont irrégulières, c'est très 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 particulier à travailler. Et finalement, c'est un métier qui n'existe pas vraiment.
Qu'est-ce qui vous a guidé au niveau du choix des machines? Parce qu'on imagine quand même qu'il n'y a pas un travail... Bien sûr, il y a un travail manuel très important, je ne dis pas, mais qui vous guide au niveau de ces machines particulières pour pouvoir faire ça? C'est quand même spécifique.
Nous.
D'accord. Voilà. On essaie, mais ça ne marche pas.
Il y a Internet, voilà, on s'enseigne.
Et la matière première, donc ce sont des palettes qui ont vécu, qui ont bien travaillé.
Oui.
Et ça génère comment? Via des transporteurs? Comment ça fonctionne?
Ah non, avec notre petite camionnette, on cherche...
Et on va faire drilling,
voilà,
on cherche...
Et puis on se fournit en palettes à gauche,
donc,
à droite.
Ça,
et puis...
ça veut dire gauche à droite, on en trouve 10 là, 20 là.
Oui, et puis il faut bien les sélectionner, puisque, comme tu as dit, on ne prend pas toutes les palettes, puisqu'il y a des palettes qui n'ont rien à raconter, n'ont pas de vie, elles sont blanches.
Dans la palette qui a vécu, il y a un type de bois particulier?
C'est beaucoup de sapins,
d'accord.
C'est clair, ouais, beaucoup de sapins, mais qui ont un aspect, toutes les planches sont totalement différentes, et une fois traitées, puisqu'elles sont vraiment très poncées, très très fort, de manière, c'est vraiment très très lisse, si on a toujours l'impression que la palette c'est rugueux, on va avoir plein d'épines dans les mains, c'est loin d'être ça, et puis elles sont protégées avec un produit adéquat pour...
Pour retrouver toutes les créations de Palétofil, on les retrouve sur...
Il y a le site internet qui est www.palétofil.net, donc .net, et la page Facebook du même nom, Palétofil, où là vous avez plein de photos.
Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On va se retrouver avec encore des activités différentes. On va même parler de Clark. On va parler de formation. Enfin, ça va être comme d'habitude. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. À dimanche prochain. Au revoir.
Merci Christian Quino qui nous présentait sa séquence. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Petite pause musicale avant d'entamer la prochaine partie du MAC de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous parlera du festival Vacances Théâtre de Stavelot.